C'est l'heure du journal, Isabelle Millet.
Le jour d'après ne ressemblera pas au jour d'avant. Nous devons rebâtir notre souveraineté nationale et européenne.
Face à la pandémie qui ne faiblit pas dans notre pays, Emmanuel Macron lance l'effort de guerre. Il souhaite le retour du Made in France et débloque 4 milliards d'euros pour fabriquer des masques, des respirateurs, des médicaments, alors que 500 nouveaux patients sont morts ces dernières 24 heures en France. Le virus qui continue de cibler les plus fragiles, les personnes âgées en particulier, 15 résidents d'un EHPAD ont succombé à Mougins.
Ce sont des personnes qui sont vulnérables, fragiles. Et lorsque le Covid-19 s'introduit dans un établissement comme ça, où on a une centaine de personnes regroupées, il fait des ravages terribles, quoi.
Décathlon à la rescousse, l'enseigne fait don de ses masques de plongée aux hôpitaux. Le gouvernement décide de décaler la déclaration de revenus du 9 au 20 avril, un délai nécessaire en raison du confinement. Le deuxième plus grand aéroport de France en sommeil, Orly, ferme ce soir jusqu'à quand, personne ne le sait. La disparition de Pierre Bénichoux, une voix familière des auditeurs d'Europe 1 dont il anima les après-midi pendant des années, aux côtés de Laurent Ruquier, toujours avec son ton décalé.
Je respecte toutes les croyances dans tous les dieux. Et je trouve que chacun a le droit de s'exprimer. Mais je pense que croire au miracle, c'est faire honte à la religion.
Quand question pour un champion se transforme en question pour un balcon, initiative d'un Parisien qui invite ses voisins tous les soirs à un quiz à la fenêtre. Côté météo, depuis votre fenêtre justement, vous aurez une très belle journée demain pour tout le monde ou presque, quasiment aucun nuage sur la moitié nord, juste du soleil. Sur le quart sud-ouest et les Alpes du Sud, en revanche, le ciel restera couvert. Ne manquez pas les prévisions d'Anissa Haddadi à la fin de ce journal. La Bourse de Paris a terminé en hausse de 0,40% à 4396 points après une séance particulièrement nerveuse. On verra comment s'est passée cette journée sur l'ensemble des places financières avec Didier Hamot de Boursier.com qui sera avec nous d'ici 20 minutes. Comme chaque soir à 22h20, vous avez rendez-vous avec l'interview écho d'Emmanuel Duteil. Emmanuel reçoit ce soir Michel Lacoste, le président du Conseil national des appellations d'origine laitière. Les fabricants de fromage qui, eux aussi, sont inquiets évidemment des répercussions de la crise actuelle.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le Made in France, mis en avant donc aujourd'hui par Emmanuel Macron, alors que la crise actuelle met en lumière les manques criants, en particulier dans le domaine de la santé. Notre pays est dépendant des autres, surtout de la Chine, et cela doit changer. Le jour d'après ne ressemblera pas au jour d'avant, a promis le chef de l'État en visite dans une usine de masques, justement près d'Angers, dans le Maine-et-Loire. Il faut reconquérir l'indépendance française, alors ça c'est pour la philosophie générale, et ça va se concrétiser très rapidement, Aurélien Fleureau, avec la promesse de revenir à une production française de masques et aussi de respirateur.
Oui, il y a d'abord les masques. Objectif annoncé par Emmanuel Macron, 10 millions de masques fabriqués en France chaque semaine d'ici la fin avril. Une production locale qui est en train de tripler, même si elle ne répondra pas entièrement aux besoins du personnel soignant et des EHPAD, qui sont évalués à 40 millions par semaine. C'est pour ça que pour l'instant, les commandes venues de Chine restent cruciales. Et puis l'autre annonce majeure de la journée concerne les respirateurs. C'est évidemment prioritaire en ce moment. Et là, ce sont 10 000 respirateurs qui seront fabriqués par un consortium mené par Air Liquide, seul fabricant jusqu'ici en France. Le groupe sera aidé par PSA, Valeo, Schneider Electric. Chacune de ces entreprises va apporter son savoir-faire pour relever ce défi au plus vite. Chez PSA, par exemple, c'est un atelier qui doit ouvrir le plus rapidement possible sur le site de Poissy dans les Yvelines, où il faudra assembler les 300 composants qui permettent de réaliser un respirateur tout en coordonnant le travail d'une centaine de sous-traitants. Au total, pour les médicaments, les respirateurs et les masques, le chef de l'État a annoncé aujourd'hui une dotation spécifique de 4 milliards d'euros.
Les précisions d'Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1. Emmanuel Macron qui a aussi pris le temps aujourd'hui de répondre à ses détracteurs, à ceux qui estiment que le gouvernement ne gère pas correctement cette crise.
Mon tempérament n'est jamais de m'exonérer de quoi que ce soit. Mais j'ai un principe simple. Quand on mène une bataille, on doit être unis pour la gagner. Et je pense que toutes celles et ceux qui cherchent déjà à faire des procès, alors que nous n'avons pas gagné la guerre, sont irresponsables. Le temps viendra de la responsabilité. Ce temps viendra. Et il est légitime et démocratique. Et à ce moment-là, la transparence complète devra être faite. J'appelle d'abord à la dignité et à l'esprit de responsabilité celles et ceux qui construisent des certitudes avec les connaissances d'aujourd'hui quand ça n'était pas celle d'hier. Vous savez, je pourrais retrouver les paroles de toutes celles et ceux qui vous expliquent les grandes difficultés, qui quelques jours avant ma première allocution du 12 mars, expliquaient qui il serait indigne de reporter les élections municipales, qui tout ça est une mise en scène du gouvernement et va trop loin. Tout le monde a appris et nous apprenons tous avec beaucoup d'humilité parce que cette pandémie est inédite.
Emmanuel Macron au micro Europe 1 de Jean-Rémy Baudeau. Comme chaque soir, le directeur général de la Santé a communiqué sur le bilan de la journée dans notre pays. 499 personnes ont succombé en France ces dernières 24 heures. 22 757 personnes sont actuellement hospitalisées. 5565 cas graves nécessitent des soins en réanimation et 68 d'entre elles ont moins de 30 ans. Le virus, on le sait, est particulièrement redoutable, hein, bien sûr, pour les personnes les plus fragiles, les personnes âgées en particulier. À Lorient, dans le Morbihan, 7 résidents d'un EHPAD sont décédés. Et on a aussi appris aujourd'hui le décès de 15 résidents d'un établissement pour personnes âgées dépendantes à Mougins, près de Cannes, Frédéric Michel.
Effectivement, 15 résidents diagnostiqués positifs au Covid-19, 15 morts en 15 jours. La maison de retraite La Riviera a été douloureusement touchée par l'épidémie. Les victimes ont toutes plus de 75 ans et dès les premiers jours de la crise en France, l'établissement a dû faire face à la multiplication des cas. Richard Galli est le maire de Mougins.
Ben, le confinement avait été respecté. Malgré tout, voilà, ce sont des personnes qui sont vulnérables, fragiles. Et lorsque le Covid-19 s'introduit dans un établissement comme ça, où on a une centaine de personnes regroupées, il fait des ravages terribles, quoi, terribles. Donc, il y a eu 4 ou 5 morts dans la première semaine. Ce qui manquait au départ, c'était des protections et surtout des masques. Donc, je suis intervenu auprès de la préfecture et de l'ARS. Donc ça a été obtenu d'ailleurs assez rapidement, en 3 jours ou 4 jours.
Et le maire de Mougins, qui est aussi docteur généraliste, réclame désormais que le personnel et les résidents soient tous dépistés. Richard Galli pousse aussi un coup de gueule. Laissez-nous prescrire des antiviraux, la chloroquine notamment. Il souhaite que l'extension de la prescription soit étendue à tous les généralistes qui ont fait les études, hein, et qui prennent chaque jour, dit-il, leur responsabilité dans leur cabinet en prescrivant des médicaments à leurs patients. Cela aurait peut-être pu éviter des morts dans cet EHPAD. Tous les pensionnaires sont actuellement confinés dans leur chambre et le personnel qui fait un travail extraordinaire, souligne le groupe Corian qui gère l'établissement. Ce personnel est désormais épaulé par des équipes de l'hôpital de Grasse, des équipes d'hospitalisation à domicile, d'hygiène mobile et de gériatrie.
Frédéric Michel, correspondant d'Europe 1 dans les Alpes-Maritimes. Et dans ce contexte, toutes les initiatives, toutes les idées sont les bienvenues. Comme celle-ci, un masque de plongée de la marque Decathlon utilisé contre le coronavirus. On a pu croire au départ à une blague et pourtant c'est très sérieux. Des soignants déjà l'utilisent au point que Decathlon a décidé de les retirer de la vente pour les offrir aux hôpitaux. Ces masques qui recouvrent tout le visage ont été modifiés par des ingénieurs. Et dans le service de réanimation de l'hôpital Nord-Franche-Comté, on les utilise même depuis ce matin. Arthur Elmaché.
Vous l'avez déjà vu sur la plage ou à la piscine, peut-être le voilà donc dans les services de réanimation. Le tuba intégré à ce masque intégral qui recouvre tout le visage a été modifié. C'est très utile au médecin réanimateur Sylvain Malfroy, surtout au moment critique, dit-il, de l'intubation.
On est au plus près de l'infection. À n'importe quel moment, si le malade se met à tousser par exemple, on peut en prendre un peu plein la figure. Finalement, le masque de plongée de Decathlon, il devient une protection parfaite avec un confort de vision et de respiration complètement satisfaisant.
En haut du tuba, un filtre utilisé normalement dans les respirateurs. Cécile Lamas dirige la pharmacie de l'hôpital Nord-Franche-Comté.
En fait, c'est un filtre qui a une efficacité de rétention virale et bactérienne à 99,9999%, alors que les masques FFP2, 98%.
Les ingénieurs de l'Université technologique Belfort-Montbéliard produisent 60 pièces par 24 heures avec imprimante 3D. La partie en haut du tuba pour fixer le filtre. Depuis ce matin, les demandes explosent. Les hôpitaux de Marseille, Douai, Lens, Clermont, Mulhouse, Colmar, Bruxelles, en Suisse. Alors impossible ici de tout produire. Ce soir, l'université met à disposition de tous les plans et fichiers numériques pour reproduire la pièce qui fait donc d'un masque de plongée Decathlon, une arme contre le coronavirus, Decathlon qui bloque la vente aux particuliers pour garder des stocks pour les soignants.
Les précisions d'Arthur Elmaché, correspondant d'Europe 1 dans l'Est.
Europe 1, le journal de la nuit. Isabelle Millet.
Il est 22h09, merci d'écouter Europe 1, c'est la suite de votre journal. Et le gouvernement qui annonce ce soir qu'il décale d'une semaine la déclaration de revenus, c'est une conséquence directe bien sûr de la situation liée au coronavirus et au confinement. Écoutez les précisions ce soir du ministre des Comptes Publics, Gérald Darmanin, chez nos confrères de TF1.
On aurait dû déclarer ses revenus à partir du 9 avril. On le fera à partir du 20 avril. Pour le papier, de donner un mois supplémentaire à nos déclarants, notamment tous ceux qui doivent aller dans les centres des finances publiques. On voit bien que pendant le confinement, ce n'est pas possible, sauf à l'appeler directement au téléphone. On a besoin parfois de contacts physiques. On a jusqu'au 11 juin, quand on est déclarant papier, désormais un mois de plus pour pouvoir remplir sa déclaration de revenus. Les Français trouveront ce soir sur le site impots.gouv.fr toutes les dates par rapport à là où ils habitent pour télédéclarer également.
Gérald Darmanin, le ministre des Comptes publics, qui a également souligné que les contrôles fiscaux en cours seraient suspendus et qu'il n'y en aurait pas de nouveaux pendant cette période de confinement dans les secteurs à l'arrêt comme la restauration. Depuis ce soir, l'aéroport parisien d'Orly est fermé. C'est une image exceptionnelle, hein, rarissime. Plus aucun trafic, aucun vol commercial. Et on ne sait pas du tout, bien sûr, quand l'activité aérienne va pouvoir reprendre, ce qui est forcément très troublant, notamment pour Michel, qui est responsable de l'exploitation de l'aéroport.
On va accueillir les dernières opérations commerciales. Ce soir, après 23h30, l'aéroport de Paris-Orly sera fermé au trafic commercial. Ce qui ne veut pas dire que l'aéroport de Paris-Orly est fermé. Il reste ouvert à des vols spéciaux, des vols d'État et des vols éventuellement sanitaires. J'avoue que dans ma carrière professionnelle, je n'ai jamais vécu cette situation-là, l'entreprise non plus. C'est vraiment un phénomène assez unique. On ferme des infrastructures, mais ces infrastructures, elles restent bien évidemment sous surveillance. L'idée, c'est de se préparer à une reprise dès que celle-ci sera possible.
Michel Landel, responsable de l'exploitation de l'aéroport d'Orly, joint pour Europe 1 par Aurélien Fleureau. Plus d'avions donc à partir de ce soir. Trafic extrêmement réduit également sur les rails. 42 TGV seulement par jour en ce moment, contre 700 habituellement. Un seul aller-retour par exemple en Eurostar vers Londres et 18% des TER en circulation. Pour lutter contre le fléau des violences conjugales, qui est particulièrement préoccupant, hein, on le sait, on en a beaucoup parlé sur Europe 1 en cette période de confinement, le ministre de l'Intérieur a annoncé cet après-midi qu'il sera possible dès demain d'alerter les forces de police ou bien de gendarmerie par un simple texto, un SMS envoyé au 114 qui permettra de signaler des faits ou des soupçons de violence conjugale. Notez bien donc ce numéro, le 114. Aujourd'hui à Lille, un médecin a été condamné à 3 ans de prison, dont 2 fermes, pour avoir toussé de façon volontaire, exagérée, devant des gendarmes en leur disant qu'il était positif au Covid-19. Il venait d'être interpellé justement pour des violences conjugales. Et puis à Grenoble, un homme qui à 4 reprises n'avait pas respecté les règles du confinement a été condamné en comparution immédiate aujourd'hui à 2 mois de détention à son domicile sous surveillance électronique. Avec le confinement, c'est tout le pays qui tourne au ralenti. Bien sûr, la justice également. De nombreux procès sont reportés, notamment celui des attentats de janvier 2015, Charlie Hebdo, Montrouge, l'hypercacher. Les audiences qui devaient se dérouler au mois de mai se tiendront finalement à partir du 2 septembre. Des nouvelles également des autres pays frappés par la pandémie. La Grande-Bretagne a enregistré aujourd'hui 381 décès supplémentaires. L'Espagne détient le triste record du nombre de soignants contaminés. Le pays a encore recensé 849 morts en 24 heures. Et puis aux États-Unis, la pandémie progresse à une vitesse très inquiétante. À New York en particulier, mais aussi en Louisiane, où l'on redoute que les festivités de Mardi Gras aient servi de bombe à retardement.
Europe 1, Isabelle Millet.
Et la disparition aujourd'hui d'une figure familière des Français et en particulier des auditeurs d'Europe 1, Pierre Bénichoux. Il avait 82 ans, journaliste. Il avait notamment travaillé longtemps au Nouvel Observateur, un homme truculent et lettré qui pendant 14 ans a été chroniqueur sur Europe 1 aux côtés de Laurent Ruquier. Nicolas Carreau, les hommages se sont multipliés aujourd'hui. Tous saluent son humour et son esprit bien sûr de camaraderie.
Oui, Philippe Labro, par exemple, a rappelé sa culture insondable, sa grande intelligence qu'il dissimulait derrière le rire et son culte de l'amitié. Avalanche de réactions cet après-midi et les hommages se ressemblent. Ils rappellent tous la capacité de Pierre Bénichoux à ne jamais se prendre au sérieux, même s'il en aurait eu les moyens. Il est né en 1938 à Oran, il fait ses études à Paris et commence sa carrière comme stagiaire à France Soir. Il rejoint en 68 le Nouvel Observateur, dont il devient rédacteur en chef, puis directeur délégué. Il se fait connaître du grand public à partir des années 90 à la radio, aux Grosses Têtes d'abord, puis dans l'émission de Laurent Ruquier, On va se gêner sur Europe 1, où il n'en fallait pas beaucoup pour qu'il se mette à chanter et à rire.
On l'appelait Rose, elle était belle, elle sentait bon la fleur nouvelle,
rue Saint-Vincent.
C'est très 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 gay.
Voilà, Pierre Bénichoux dans ses œuvres, c'était en 2008. Il était par ailleurs fou de poésie, mais il écrivait peu. Il a quand même publié un livre il y a 3 ans qui rassemblait les notices nécrologiques qu'il rédigeait pour le Nouvel Obs. Son titre, Les absents, levez le doigt, même la mort, il ne la prenait pas au sérieux.
Nicolas Carreau du service culture d'Europe 1, et on précise que le décès de Pierre Bénichou n'a rien à voir avec le Covid-19. Et puis vous connaissez forcément l'émission de télé Question pour un champion avec notre camarade Samuel Etienne. Et bien voici Question pour un balcon. Chaque soir, depuis une semaine maintenant, un habitant du 11e arrondissement de Paris se met à sa fenêtre pour jouer avec ses voisins. Ils sont des dizaines désormais à participer à ce quiz improvisé des deux côtés de la rue. Gros succès, retransmis même en direct sur les réseaux sociaux, Justin Morin.
Oui, ce soir encore, juste après 20h, et les applaudissements en soutien des soignants, voilà ce qu'on a pu entendre dans une petite rue du 11e arrondissement. Alors, ce n'est pas Samuel Etienne, mais Noam Cartozo, un comédien de 31 ans, privé de scène, à sa fenêtre du 4e étage, costume noir, chemise blanche et chaussons. Les habitants des immeubles au numéro pair affrontent ceux des numéros impairs.
Le cadeau a gagné un lot de 20 rouleaux de PQ. Et attention, quel est le département numéro 71?
Savoie,
c'est pas ça. Ouais, j'ai entendu. C'est qui? C'est Père. 2-0 pour les Pères.
Sa première vidéo enregistrée il y a une semaine a dépassé le million de vues sur les réseaux sociaux et ses abonnés explosent.
Je ne sais pas si c'est fou, si c'est n'importe quoi, si c'est un rêve. Des gens, voilà, je les vois qui sont avec leur smartphone, qui filment et ils me les envoient. Donc c'est super cool de refaire une rediffusion de l'émission en multicam. C'est la seule émission qui est filmée par les participants, donc c'est plutôt drôle.
Vu le succès, des marques ont même contacté le comédien pour lui proposer des cadeaux à offrir à ses voisins.
À très très bientôt, à demain pour Question pour un.
Voilà, c'est sympa ce genre d'initiative. Merci Justin Morin. Et tout de suite, question pour une présentatrice météo, Anissa Haddadi, c'est vous bien sûr. Pour demain, Anissa, toujours du beau temps dans le nord. Hein.
Oui, effectivement Isabelle, avec aucun nuage demain, pas de vent, juste du soleil, un ciel très dégagé au lever du jour sur la Charente-Maritime, le Massif Central, le Vaucluse et la Drôme. La journée commence avec des brumes et des brouillards qui vont rapidement se dissiper, je vous rassure. Sur le quart sud-est et les Alpes du Sud, le ciel est couvert, avec d'ailleurs sur le Roussillon des averses dans l'après-midi. Et puis dans le sud, de l'autre côté, dans le sud-est, au bord de la Méditerranée, le vent d'est souffle très fort sur la Corse aussi, et puis le vent d'automne se lève avec des rafales à 90 km/h. Il fait toujours froid demain matin avec des gelées, moins 4 à Clermont-Ferrand, moins 3 à Reims et Nevers, moins 1 à Valence, 3 et Rouen, 1 degré pour Paris et Lyon, 3 à Bastia, 6 à Marseille et 10 à Perpignan. Et puis dans l'après-midi, c'est stationnaire, ça va ressembler aux températures que nous avons eues aujourd'hui, 10 à 13 sur la moitié nord sous le soleil, 14 à 17 sur la moitié sud et jusqu'à 18 degrés dans le sud-ouest.
La météo signée Anissa Haddadi.
Europe 1.
Et dans un instant, vous aurez tout sur la bourse avec Didier Hamot de boursier.com, juste avant l'invité d'Emmanuel Duteil qui reçoit ce soir le président du Conseil national des appellations d'origine laitière. Parce que les fabricants de fromage, eux aussi, sont inquiets évidemment des répercussions de la crise actuelle. A tout de suite sur Europe 1. Et à 22h18, comme tous les soirs sur Europe 1, vous en avez l'habitude, on s'intéresse maintenant à la bourse avec vous Didier Hamot, rédacteur en chef de boursier.com. Bonsoir Didier.
Bonsoir Isabelle.
Et le rebond, Didier, observé à Wall Street hier, a tourné court finalement ce soir.
Oui, malheureusement, le Dow Jones retombe. C'était un feu de paille et il y en a eu beaucoup des feux de paille ces derniers jours. Le Dow Jones recule de 1,84%, 21 917 points. Le Nasdaq cède 0,95%, 7 700 points. Wall Street boucle ce soir son pire trimestre depuis le krach de 1987 avec une chute de 22% sur 3 mois. Sur l'indice Dow Jones, les marchés restent évidemment fébriles à l'écoute de l'avancée rapide de la pandémie aux États-Unis, en particulier à New York. Les banques rechutent ce soir, moins 3% Goldman Sachs, JP Morgan moins 3,7%, Morgan Stanley moins 2,4%, l'aéronautique repique du nez, Boeing moins 1,7%, et puis les valeurs de technologie reculent, même s'il n'y a pas trop de casse du côté de Microsoft, moins 0,9%, Apple est à peu près stable, $253 ce soir, Intel repère 4%, IBM 2%. Le pétrole se stabilise, il avait beaucoup baissé, $22,70 le baril ce soir, et l'euro se fixe sur les indices face au billet vert.
Et à la Bourse de Paris, Didier, le CAC 40 a lui légèrement progressé en clôture.
Oui, oh, c'est très timide, hein, plus 0,4%, 4396 points à l'issue d'une séance encore très irrégulière, incertaine. Sur le trimestre qui vient de se terminer, la baisse ressort à 26,4% sur le CAC 40, c'est pas brillant. Les grandes valeurs, quelques grandes valeurs se sont distinguées quand même aujourd'hui. On a un petit peu remonté la pente sur Vivendi, plus 7,4%. Vivendi a finalisé la cession de 10% du capital du Universal Music au chinois Tencent sur la base d'une valorisation globale de 30 milliards d'euros. Vivendi remonte de plus de 7% ce soir. Total regagne 5,4% et remonte encore un peu. Air Liquide, plus 3,6%, 116,60 €. Vous en parliez tout à l'heure au début du journal. Le groupe va accélérer sa production de respirateurs artificiels en association avec Valeo, Peugeot et Schneider.
Et puis, exception du jour, hein, Didier, le secteur du luxe hein, qui, lui, a rechuté.
Oui, alors c'est le secteur qui est un petit peu la boussole hein, du moment, qui est évidemment très sensible à ce qui se passe internationalement. Ça avait beaucoup baissé sur les valeurs du luxe ces dernières semaines. On était remonté un petit peu et puis ça retombe avec LVMH qui recule de 3,3% ce soir. Hermès redescend d'1,7%. La direction d'Hermès va limiter son dividende et geler l'augmentation de sa rémunération. Kering recule aussi d'1,1%, 475,90 €. Tout cela reste donc très fragile. Sur les autres places financières, ça remonte quand même un peu. Francfort, plus 1,2%. Milan, plus 1%. Madrid, plus 1,8%. Et donc le CAC 40 a regagné 0,4%, 4396 points.
Eh bien, merci beaucoup pour ce tour d'horizon. Didier Hamot de Boursier.com en direct. Et tout de suite, c'est l'heure de l'invité Écho. Emmanuel Duteil, vous recevez ce soir le président du Conseil national des appellations d'origine laitière.
Bonsoir Michel Lacoste.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le président du Conseil national des appellations d'origine laitière et président de la Fédération nationale des produits laitiers. Ma première question va être très très simple. Comment ça va dans votre secteur ?
Alors dans notre secteur des fromages AOP est en crise. Notre secteur en fait représente 45 fromages d'appellation d'origine protégée, 3 beurres et 2 crèmes. Et nous connaissons une crise notamment dans le secteur fromager puisque depuis le début du confinement, les consommateurs d'une part se détournent de nos produits pour s'orienter vers des produits de première nécessité. Ils cherchent effectivement les produits de première nécessité et se détournent des produits plaisir. Parallèlement à ça, les lieux de vente qui sont spécialisés dans nos fromages AOP sont non fermés pour nombre d'entre eux. C'est à la fois les rayons coupe qui représentent 38% de nos ventes et à la fois les commerces de proximité et les marchés ouverts qui représentent 12% de nos ventes. D'où une baisse d'activité en moyenne de 60% chez nos opérateurs. Mais à noter la situation dramatique vécue à la fois par les PME, TPE et producteurs fermiers qui connaissent des baisses de ventes qui vont de 70 à 100% sur la dernière semaine.
Et est-ce que ces entreprises se sentent soutenues par l'État ? C'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs dispositifs mis en place, notamment le fonds de solidarité pour les petites entreprises. Si on a une baisse de chiffre d'affaires égale ou supérieure à 50%, on peut avoir le droit notamment à une aide de 1 500 €. Est-ce que les entreprises que vous représentez estiment que c'est suffisant, ça permet de faire le dos rond ?
Mais actuellement, ce dispositif n'est pas adapté à notre secteur. Puisque, en fait, nous pensons que sur la durée de la crise, enfin, nous espérons ne pas rester à moins 70% de baisse de chiffre d'affaires et de baisse d'activité. Et donc, nous ne sommes pas du tout sûrs que notre secteur agroalimentaire et nos fromageries pourront accéder à ce dispositif. Donc, nous sommes intervenus auprès du ministère de l'Agriculture. Nous avons eu un rendez-vous pas plus tard qu'hier pour souligner la situation dramatique de nos fromageries. Demander des mesures d'accompagnement en termes de chômage partiel notamment, puisqu'aujourd'hui de nombreux dossiers ont été refusés, et demander également des mesures pour accompagner...
Pourquoi on vous a refusé le chômage partiel
Ça a été refusé au titre, jusqu'à présent nous avons eu des dossiers refusés au titre que le secteur agroalimentaire et agricole faisant partie devant assurer la continuité d'activité, nous ne pouvions prétendre à une telle mesure. Eh bien, ils se sont engagés à étudier la demande, donc nous allons remonter des dossiers, et nous jugerons à partir du résultat, oui.
Mais du coup, pour le moment, vous estimez ne pas être aidé, ne pas être suffisamment aidé.
Ah ben à ce jour, concernant la spécificité laitière, je dirais au sein du monde laitier, en fait, il y a une situation très contrastée, puisque enfin, les gens qui nous écoutent voient des rayons qui sont vides en lait UHT, en beurre, en crème. Mais nous, nos fromageries des PME, TPE, producteurs fermiers, sont spécialisés sur les fromages d'appellation d'origine protégée. Et donc ne sont pas du tout dans la même situation, n'ont pas des outils qui leur permettent de produire les produits laitiers aujourd'hui recherchés vers les consommateurs. Et c'est pour ça qu'on lance à la fois un appel aux consommateurs de revenir à un achat de plaisir dans cette période difficile, mais d'essayer de remettre un peu de soleil sur la table. Mais aussi au pouvoir public, puisque la semaine dernière, il y avait un Conseil européen des ministres de l'Agriculture qui traitait de la crise, mais qui n'a débouché sur aucune réponse, notamment par rapport à notre secteur. Et comme nous sommes effectivement, nous représentons une faible part, certes, du monde laitier, puisque les fromages AOP, c'est 12% du lait de vache en France, c'est 14% du lait de chèvre, c'est 40% du lait de brebis. Donc nous sommes une part minoritaire de la filière laitière et nous avons l'impression d'être aujourd'hui complètement oubliés. Alors que
Les distributeurs, les gros distributeurs jouent le jeu.
Alors les gros distributeurs, dans la première point de situation, nous avons enregistré des baisses de commandes très importantes, liées notamment à la fermeture des rayons coupe. Nous avons pu échanger avec les grands distributeurs où en fait on s'est aperçu qu'eux-mêmes étaient déstabilisés par ce qui se passait. Et nous avons travaillé ensemble et je pense que le message est passé puisque déjà nous entendons que les campagnes de communication des grands distributeurs se sont réorientées et évoquent la question des fromages d'appellation d'origine protégée. Pour autant, aujourd'hui, les commandes ne redémarrent pas très vite.
Ça, vous voyez une sorte d'envie, mais ça ne se matérialise pas pour le moment.
Voilà, il y a un engagement des distributeurs. On voit que ça a l'effet dans leur communication sur les fromages AOP. Mais par contre, les ventes de fromages AOP ne redécollent pas pour l'instant.
En revanche, le fait que 25% des marchés puissent rouvrir malgré l'interdiction qui avait été annoncée, j'imagine que c'est un petit bol d'air pour votre profession.
Alors oui, la réouverture des marchés est une très bonne nouvelle pour nos filières d'appellation d'origine protégée, notamment pour les producteurs de fromage AOP, les producteurs fermiers, parce que souvent les producteurs fermiers sont les plus présents sur ces marchés, et les producteurs fermiers de fromage AOP sont vraiment le public qui, dans notre filière, est le plus touché. J'avais ce dimanche un producteur de Munster AOP qui me disait qu'il recevait son premier client depuis une semaine.
Eh bien, on va espérer que tout ce que l'on en est, on retourne acheter un petit peu ces produits plaisir parce que par ailleurs, c'est très très bon et on a effectivement tous besoin d'un petit peu de plaisir en ce moment. Un grand merci, Michel Lacoste, le président du Conseil national des appellations d'origine laitière et président de la Fédération nationale des produits laitiers, d'avoir été notre invité ce soir sur Europe 1. On se retrouve demain, 22h20.
Merci à vous et à demain, effectivement, Emmanuel Dutheil.